Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole tous les matins pour commenter l'actualité. Nous reviendrons dans 30 minutes sur la situation au Burkina Faso avec le retour hier de la transition. Michel Kafando rétabli dans ses fonctions de président. Le coup d'État a donc échoué au Burkina Faso. Le général putschiste Diendéré a d'ailleurs fait son mea culpa. Mais la crise est-elle pour autant terminée? On va en parler ensemble et vous êtes très nombreux à souhaiter commenter les derniers événements sur place. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens. L'amnistie demandée par les putschistes, l'avenir du RSP, le régiment qui est à l'origine du coup d'État, faut-il le dissoudre immédiatement? Ou encore cette question, la participation des pro-Compaoré aux prochaines élections. C'était, rappelez-vous, l'une des raisons avancées par le RSP pour justifier sa prise du pouvoir par la force la semaine dernière. Alors comment envisagez-vous la fin de la transition? Quel scénario faut-il privilégier? 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec un sujet, on va dire, léger. On va parler tennis. Jean-Baptiste Marot faisait référence à l'instant du premier match des Français en Coupe Davis. Ce sera face au Canada. Merci Olivier Pron. On va parler du retour de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France. Olivier Pron du service des sports est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous et bonjour le Burkina, parce que ça vient du Burkina.
Et voilà, la question nous vient exactement de Dédougou, c'est à 250 km de la capitale. Ismaïla, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour au peuple burkinabé d'abord. J'ai deux petites questions au sujet de Yannick Noah. La semaine dernière, il a été nommé capitaine de l'équipe de France de tennis au Coupe des Vices en 2016. Alors j'ai deux petites questions. La première, Yannick Noah.
Oui. Allô? Alors, il y a un problème. Ça coupe. Ah. Alors c'est dommage, ça nous arrive de temps en temps, tout d'un coup la ligne s'interrompt et on ne sait pas pourquoi, alors on me fait signe qu'on n'a plus rien de l'autre côté.
Mais on connaît les questions, c'est ça qui est bien.
On connaît les questions, c'est bien. Bah,
heureusement. Et moi je suis bobolet, alors on se comprend.
Je vous le rappelle. Les atouts de Yannick Noah en tant qu'entraîneur des Bleus, voilà, c'était la question d'Ismaïla. Les atouts par rapport à son prédécesseur Arnaud Clément, qui a fait les frais il y a quelques jours de l'échec de l'équipe de France en quart de finale contre la Grande-Bretagne. C'est donc Yannick Noah qui prend la relève. C'est la troisième fois que Noah prend la tête de l'équipe de France. Mais je croyais qu'il était plus tennisman, moi. Je croyais qu'il ne jouait plus au tennis et qu'il était chanteur.
Les jeunes générations se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors un chanteur maintenant pour diriger une équipe de France, pourquoi pas mettre, Jean-Paul Belmondo à la tête de l'équipe de France de football? Remarquez, ça marcherait peut-être pas plus mal. Mais pour ce qui est du tennis, c'est vrai que pour les générations, et notamment la génération de joueurs, là, ceux qu'on appelle les mousquetaires, les nouveaux mousquetaires, qui finalement ne gagnent pas grand-chose, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils reviennent. Bref, tous ces jeunes-là ne connaissent que Noah, le chanteur. Mmh. Alors, à chaque fois qu'ils vont à Roland-Garros, ils le voient en photo. On rappelle, Yannick Noah, le dernier Français, vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en 1983, il y a 32 ans déjà. Mais depuis, il a cette réputation d'être un gourou, d'être un fédérateur, un mobilisateur.
Un meneur d'homme.
Il permet à la France en 1991, j'y étais, monsieur Gomez, contre toute attente, de battre à Lyon les États-Unis, avec Sampras, avec Agassi, avec la meilleure paire de doubles du monde, Lecomte et Forget parviennent à ramener le saladier d'argent, puisque c'est ainsi qu'on nomme la Coupe Davis, en France 45 ans après la dernière victoire. Donc en 91, il fait ça, il récidive 5 ans plus tard en Suède, donc 91-96. L'année d'après, on oublie souvent, il est avec les filles, il permet aux filles de remporter la Fed Cup, c'est l'équivalent de la Coupe Davis. Donc voilà, il a une vraie réputation. Entre-temps, il était passé par exemple, le PSG le fait venir lorsqu'il prépare la finale de la Coupe des Coupe en 96, le fait venir pour ce côté un peu gourou. On se souvient des images sur la plage de la Baule avec tous les joueurs autour de lui et Noah dans la position du lotus. Zen, tout va bien. Voilà, il a toujours eu cette image. Il est devenu chanteur ensuite. La génération actuelle le connaît peu, mais quand même, On a l'habitude de dire, tiens, à chaque fois que ça va mal, on appelle le pompier Noah. Bah, finalement, on l'a pas appelé depuis 17 ou 18 ans.
Depuis 18 ans,
on
exactement.
On pense à lui. Nous, les journalistes, on fait toujours référence à lui. Mais finalement, c'est la première fois qu'il revient.
Et sait-on s'il fait l'unanimité, justement, auprès des joueurs, des jeunes?
Alors, a priori, oui, parce qu'il avait toujours dit, il y a quelques mois, il avait quand même envoyé un sacré signal à un confrère. Il avait dit, si on m'appelle, je serai prêt, mais je veux qu'ils soient tous d'accord. Alors, on sait que si ça a traîné un peu l'annonce de son nom, c'est qu'il a mis un point d'honneur depuis 3 semaines à voir tout le monde, tous les joueurs, parce qu'on sait aussi que tout le monde, tous les joueurs n'étaient pas disposés à se séparer d'Arnaud Clément, qui a pas mal fait son travail, mais qui avait juste, semble-t-il, ces derniers temps, un peu de mal à fédérer. Et c'est vrai que le quart de finale perdu contre la Grande-Bretagne, ça c'est un vrai fiasco, après une année où on avait été en finale contre la Suisse, c'est un vrai fiasco. Il y a eu, sans doute, du côté de Joe Wilfried Tsonga, divorce avec Arnaud Clément, Gasquet était moins concerné, il fallait fédérer.
Ismaïla est de retour. Vous avez une autre question, Ismaïla.
Alors, je voudrais savoir quelle stratégie il compte mettre en place pour faire gagner l'équipe de France.
Alors, ça c'est une bonne question, puisque l'objectif c'est de regagner le saladier d'argent. Que va faire Yannick Noah? Que sait-on de son plan, de sa stratégie?
Alors, regagner le saladier d'argent, c'est là où je reviens à la référence que je faisais tout à l'heure. Cette génération des Gasquet, Tsonga, Simon, Monfils, si talentueuse, et elle l'est vraiment, elle n'est pas assez forte dans sa tête, mais ça c'est un mal français qui nous ronge depuis bien longtemps chez les sportifs notamment. Elle doit gagner quelque chose. À défaut de gagner un grand chelem, elle doit gagner la Coupe Davis. C'est une anomalie. Il est là pour ça. Le tirage au sort, vous l'avez entendu, on sera fixé très vite sur l'influence de Noah, ce sera au mois de mars. Pour le reste, il est assez flou. On sait, on vient d'en parler, qu'il est fédérateur, tout le monde semble curieux de travailler avec lui.
Et il veut faire preuve d'autorité, il l'a dit.
Ah oui, il va fixer des règles, on s'y plie ou on ne vient pas. C'est-à-dire le côté Gasquet qui sort d'une demi-finale à Wimbledon et qui arrive une semaine après pour jouer face aux Anglais en quart de finale de Coupe Davis et qui dit bon, « je le sens pas trop là », bah non, ça marchera pas. Quand on vient de faire une demi-finale à Wimbledon, on enchaîne. Tsonga qui abandonne son coéquipier dans le double si décisif, ça ne passera plus non plus. D'ailleurs Noah, le double, il en fait son axe de travail. On s'est aperçu que dans les rencontres un peu serrées, c'était évidemment ce qui faisait la différence. Il faut travailler sur le double, il faut travailler mentalement. Pour le reste, le plan, on n'en saura pas beaucoup plus. Ça viendra, on aura l'exemple, 5 et 6 mars face au Canada. En France, ce sera plutôt un bon tirage pour commencer.
À suivre, et on suivra ça évidemment, notamment avec vous, Olivier Pron du service des sports. Merci d'être venu. Ismaïla, bonne journée à Dédougou, au Burkina Faso, 33 9 693 693 70. Bonjour Gide.
Bonjour.
Vous êtes à Brazzaville, au Congo, et vous avez des questions sur les mésaventures d'un jeune Américain de 14 ans arrêté par la police pour avoir apporté au collège une horloge qu'il avait lui-même fabriquée à la maison.
Oui, Juan, mais avant que je me mette à poser mes questions, j'aimerais d'abord saluer toute l'Afrique, évidemment la radio mondiale, pour la victoire du peuple burkinabé. Voilà, pour cet exemple de lutte et de bravoure qu'ils ont montré face aux barbares antidémocrates aux yeux de toute l'Afrique.
On aura
aussi toute récondoléance à toutes les familles qui ont perdu un être cher durant ces événements malheureux.
On aura l'occasion de parler du retour de la transition dans 20 minutes. Ce sera le débat du jour. Une fois de plus, c'est vrai que vous êtes très nombreux à souhaiter commenter cette actualité. Vous, quelles sont vos questions, Gide?
D'accord. Voici évidemment l'objet de mes préoccupations. Alors, il y a quelques jours, il a été publié sur le site RFI.fr l'information concernant le jeune Ahmed Mohamed, qui avait été emprisonné durant 3 jours parce qu'il avait fabriqué une bombe selon la police, alors qu'il s'agissait plutôt d'une horloge. Alors mes questions sont les suivantes. Pourquoi la police a-t-elle mis autant de temps, c'est-à-dire 3 jours, pour se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'une bombe mais d'une horloge? Comment s'est passée la procédure? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Et ensuite, l'autre question, pourquoi pendant il y avait le débat républicain durant cette période, pourquoi les candidats républicains n'en ont pas parlé alors que le président Obama et Madame Hillary Clinton ont clairement affirmé leur soutien au jeune Ahmed?
Ouais. Plusieurs questions évidemment, et on les comprend, pour tenter de comprendre cette méprise de la police américaine. Thomas Nekaroff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On vous doit plusieurs ouvrages, dont Les États-Unis pour les nuls. Alors, la police a cru qu'il s'agissait d'une bombe, une bombe factice. En fait, ce n'était qu'un réveil. Le problème, c'est que ce jeune collégien a été arrêté, menotté, interrogé durant plusieurs heures par la police et non trois jours, comme le disait à l'instant notre auditeur. Mais que s'est-il passé exactement, Thomas Tegraff?
Ben c'est un jeune garçon qui a apporté dans son collège de 14 ans, il a apporté dans son collège effectivement ce qu'il avait construit de ses propres mains. On dit que c'est un petit génie dans son quartier, ben une espèce de petite horloge. Et puis il y a un professeur qui a trouvé ça un peu louche, qui l'a conservé précieusement, qui a prévenu les autorités du collège, qui ont prévenu la police. Et puis tout s'est emballé assez rapidement. Alors très vite, on a bien vu que c'était pas, pour répondre à la question de Gilles, on a bien vu très vite qu'il s'agissait pas d'une bombe. Mais on s'est dit, est-ce que il a pas fait croire que c'était une bombe pour faire peur? Est-ce qu'il n'y a pas, bien sûr, une volonté de terrorisme, mais peut-être de terroriser la population? Voilà, ça en dit long. C'est au Texas, hein, ça en dit long sur l'état d'esprit et sur aussi une forme de délit de faciès, en l'occurrence de nom, puisque on sait que l'un des policiers, quand il est arrivé, un des inspecteurs, quand il a vu l'élève, il a dit ah ben voilà, ça m'étonne pas, quoi. Ouais. En voyant effectivement ce jeune musulman, on voit très vite les parallèles qui peuvent être faits et l'état de la société américaine.
Donc cette affaire met en évidence d'une certaine façon les idées reçues de la police américaine et surtout de la police du Texas à l'encontre des musulmans, de ceux qui portent un nom, un prénom à consonance, on va dire, musulmane. Alors ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, ce collégien a reçu d'énormes soutiens, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Son histoire a ému de nombreux internautes, y compris Barack Obama, qui a tweeté. Il a posté un tweet invitant le jeune américain Ahmed à venir à la Maison Blanche, mais pas un mot du côté républicain.
Oui, parce que c'est compliqué pour les républicains, parce que il y a plusieurs choses. D'un côté, les républicains en général sont du côté de l'ordre et considèrent que critiquer la police, c'est mettre en péril la nation américaine, y compris quand la police se trompe. C'est-à-dire que c'est presque un principe que de ne pas le faire. Alors on n'est pas Donald Trump qui lui va carrément jusqu'à dire que 99% de ce que fait la police est juste moralement, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'on ne veut pas critiquer une institution qui est là pour faire respecter l'ordre. Et puis les Américains, les républicains en particulier, sont des partisans de voilà, il faut une police extrêmement forte partout. Peut-être il y aura des bavures parfois, mais dans le lot, on arrivera à mettre en sécurité les États-Unis. Donc ils veulent pas en faire des tonnes sur cette histoire. Ils considèrent que la police doit continuer à son travail, quitte à se tromper parfois, mais en se trompant parfois, elle aura aussi parfois raison. C'est un peu ça. Et puis, au fond du fond, en ce moment, aux États-Unis, et quand on suit un peu la campagne des républicains, il y a un vrai fond islamophobe assez fort. J'entends Ben Carson, par exemple, qui est quand même 2 ou 3e dans les sondages dans la course des républicains, considérer qu'il ne souhaitait pas avoir un président musulman à la tête des États-Unis. On sait aussi que dans un débat public l'autre jour, un homme s'est élevé pour dire, pour avoir des propos islamophobes concernant Barack Obama, qui n'est évidemment pas musulman, et Donald Trump a laissé parler. Il y a quand même aux États-Unis en ce moment un climat assez nauséabond, et cette histoire, elle est aussi un révélateur de cela.
Merci Thomas Negaroff d'avoir été avec nos spécialistes des États-Unis. Gide, bonne journée à Brazzaville. Plusieurs questions maintenant sur les élections anticipées de dimanche dernier en Grèce et la victoire d'Alexis Tsipras. Joël Dallègre est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes spécialiste de la Grèce. On vous a donc contacté pour répondre à quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'est passé dimanche dernier. Cédric nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Oui, comme vous venez de le dire, le parti de gauche radicale a gagné les élections en Grèce et puis il s'est allié au parti de droite souveraine pour former un gouvernement, ce que je trouvais assez bizarre. Alors j'aimerais savoir un peu ce qui a motivé cette alliance-là entre le parti de gauche radical et un parti de le parti de droite souveraine.
Oui, ce parti qui s'appelle ANEL. Joël Dallègre, on comprend effectivement l'interrogation de Cédric. On rappelle qu'Alexis Tsipras est arrivé en tête, mais son parti n'a pas obtenu la majorité absolue, donc il a été contraint, obligé de constituer une alliance. Il aurait pu se tourner vers les socialistes ou vers les centristes, mais une fois de plus, il a préféré former une coalition avec un parti de droite, avec un parti de la droite nationaliste. Pourquoi ?
Disons qu'il a déjà expérimenté cette coalition depuis le mois de février et apparemment ça a très bien fonctionné. Je veux dire, il n'a pas eu d'ennui avec l'ANEL qui a tout accepté, y compris même des choses qui au départ étaient tout à fait contraires. Je veux dire que l'ANEL ne voulait pas de la diminution des crédits militaires, il l'a accepté. Il ne voulait pas de l'augmentation de la TVA sur les îles, il l'a accepté aussi. Donc c'est vrai qu'apparemment ça marchait pas trop mal, c'était pas un allié très encombrant. Et puis, ça a l'avantage d'être un allié qui est anti-mémorandum. Alors, même si...
Anti-mémorandum, que... donc anti-Europe.
Anti-Europe,
pour schématiser, non.
Non, qui est comme Tsipras, qui veut changer l'Europe.
D'accord.
C'est pas la même chose, parce qu'il y a des partis anti-Europe. Mmh. L'Aube Dorée, le Parti communiste et la plateforme de gauche qui a créé un nouveau parti sont anti-Europe. L'ANEL veut, comme Tsipras, la changer. Et en même temps, alors que les socialistes ou les centristes, etc., se déclarent tout à fait favorables au mémorandum. Donc en fait, c'est un peu bizarre puisqu'il est contre un mémorandum qu'il a signé et qu'il applique. Mais le fait est qu'ils sont deux dans ce cas-là.
Oui, tout à fait. Mais enfin, en même temps, Alexis Tsipras n'en est pas à sa première contradiction. On l'a encore vu en juillet dernier lors du référendum. On a encore d'autres questions, Joël Dallègre. Restez avec nous. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs. Toujours dans le même ordre d'idée, moi, j'aimerais savoir une chose. Comment, de quelle marge de manœuvre dispose M. Tsipras, d'une part pour réduire la dette et de l'autre pour combattre l'austérité dans laquelle la Grèce est plongée depuis un certain temps?
Alors, ça, c'est la priorité numéro un, effectivement, c'est de réduire la dette. Comment compte-t-il s'y prendre, Joël Dallègre?
Sur l'ensemble, marge de manœuvre, il en a très peu, puisqu'en fait, la liste des lois à faire d'ici la fin octobre, puis d'ici la fin décembre, est déjà faite par l'Europe, et que, quel que soit le gouvernement élu, il devait l'appliquer. Il y a pratiquement une loi par jour à voter. Maintenant, sur le plan de la dette qui n'est pas prévue là-dedans, et dont il parle depuis le début du mois de février, disons que sa seule marge de manœuvre, c'est le fait que maintenant... Quasiment tous les économistes sérieux, y compris les prix Nobel d'économie, disent que c'est invisible et intenable comme ça et qu'il faut faire quelque chose.
Même le FMI le reconnaît.
Même le FMI. Donc je veux dire, il y a effectivement... Maintenant, il n'est plus le seul à le dire. Donc c'est la seule petite marge de manœuvre. En même temps, en face, on le tient en lui disant « Oui, on en discutera quand vous aurez voté ceci et cela. » Ce qu'on disait déjà à Samaras il y a un an et demi. Maintenant sur le reste, c'est-à-dire à l'intérieur de la Grèce, il y a des articles ce matin dans la presse grecque qui parlent justement de ce qu'il faudrait ou pourrait faire ou changer. On lui laisse une mini marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il a le droit de déplacer le poids fiscal de quelque chose sur autre chose. C'est-à-dire que s'il veut éventuellement accorder quelques avantages à une certaine catégorie, il faut qu'il prouve à l'Europe que l'argent perdu à droite, il va le récupérer à gauche.
Effectivement.
Ce qui en fait est très difficile à réaliser vu qu'on a déjà raclé dans tous les sens. Mais c'est vraiment la seule petite marge, puisque avant de voter une loi, le Parlement doit d'abord la présenter à l'Europe et obtenir son aval. Autant dire tout de suite que l'indépendance nationale, c'est un rêve.
Oui, effectivement, la Grèce sous tutelle européenne, on peut le dire ainsi. Rapidement, Joël Dallègre, je me fais le porte-parole d'Abdoul, qui nous dit sur Facebook, pourquoi y a-t-il eu 44% d'abstention dimanche dernier alors que le vote est obligatoire en Grèce?
Alors, le pourquoi des abstentions, avec ce que je viens de dire avant, c'est assez compréhensible.
On comprend, et puis en même temps, c'était la troisième fois que les Grecs votaient en quelques mois.
Mais non, comment... je ne crois pas que ce soit la troisième fois, c'est le fait qu'on a la très nette impression que ça ne sert à rien.
Ouais. Alors déjà, il y a ça.
C'est plus grave.
Mais quand le vote est obligatoire, j'imagine qu'il y a des sanctions ensuite
voilà.
Si on ne vote
pas. En même temps, si l'État maintenant voulait punir les 44%, vous imaginez comment on va punir un citoyen sur deux. Et qui le punirait Et comment? Donc en fait, ça, il se passera rien. En plus, il y a quelque chose qui est, je dirais, un héritage historique grec.
Oui.
C'est-à-dire que
faut rendre l'antenne. Je suis désolé, Joël Dallaire. Ah bon. On a des impératifs. On est comme ça, malheureusement, sur RFI.
Et en même temps,
c'est de ma faute aussi.